Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
À Montréal, c'est assez fréquent de se faire servir en anglais dans certains commerces. Et là, il semble que la tendance un peu vexante soit rendue à Québec. L'ancien maire de Quebec City, Régis Labeaume, en a tiré une chronique savoureuse pour sa chronique dans la presse de ce matin. Ça s'intitule « Histoire de croquettes ». Il est au bout du fil. Salut Régis.
Comment ça va?
Très bien. Écoute, donc, tu t'es ramassé dans un resto de malbouffe avec ta petite fille à Québec. Tu voulais des croquettes, puis ça s'est pas passé en français. C'est quand même surprenant.
Ben, écoute, finalement, ce sont des Philippins qui m'ont répondu. Ils ont été tout à fait corrects. Le seul problème, c'est qu'on se comprenait pas. Alors, à un moment donné, le gérant ou je ne sais qui était visiblement d'origine québécoise francophone, est venu régler le cas. Mais c'est la première fois où ça m'arrivait, moi, à Québec. Hein? J'ai été surpris, oui et non, parce qu'on savait bien qu'éventuellement, ça allait nous rattraper tout ça. Mais quand même, dans Québec, la blanche, on reste bête. Hein?
Mais comment t'expliques ça qu'à Québec, où, écoute, vraiment, tu sais, il n'y a pas le même phénomène d'immigration qu'à Montréal, comment t'expliques que dans un restaurant, tu n'arrives pas à te faire servir en français?
Tu sais, Québec, ça fait, on a vécu le plein emploi bien avant les autres villes, les grandes villes canadiennes, là, peut-être pas à Calgary éventuellement, mais ça fait longtemps qu'il manque de personnel ici. Alors, ce qu'on voyait, c'est des jeunes qui étaient de plus en plus jeunes qui servaient dans les restaurants, puis éventuellement, ben, ils ont manqué de monde, et donc, ils vont chercher des gens à l'extérieur du pays pour remplir ces postes-là. Alors, c'est aussi simple, et moi, je suis convaincu que ce restaurant-là, entre autres, là où je suis allé, s'ils ne sont pas là, il n'y a plus de restaurant. C'est pas bien compliqué, il n'y a plus de monde. Alors, je pense que vous le constatez ailleurs. Tu sais, quand je fais Montréal-Québec ou l'inverse, arriver à Drummondville, passer 8-9 heures, là, on n'a plus rien. Hein? Alors, les restaurants sont fermés, c'est ça la réalité. Et à Québec, on est rattrapé par ça.
Régis, t'écris dans la chronique que ta première réaction, ça a été d'être fâché. Puis après ça, avec le recul, c'est une certaine compassion qui t'a envahi face à ces deux employés-là qui ne parlaient pas français. Comment t'es passé d'un extrême à l'autre, si on veut?
Ben écoute, j'ai pas fait de crise, là, mais tu sais, je bouconnais un peu là parce que ça ne me tentait pas de le régler en anglais. Je savais que je pouvais le faire, mais maintenant, j'ai dit non, on ne fera pas ça ici à Québec. Quand j'ai eu terminé, parce que, écoute, il n'y a pas eu de bataille, là. Quand j'ai eu terminé, je me suis dit, maudite mort, tout ce monde-là, ils sont partis de tellement loin pour améliorer leur destin, leur vie. Puis moi, avec mes craquettes, je bougonne parce qu'on se comprend pas, puis je vais les avoir pareil éventuellement. C'était-tu vraiment nécessaire de bougonner? De même, on oublie toujours qu'on a affaire à des humains, hein? La dame qui était très correcte, qui m'a répondu, c'est un humain, cette femme-là. Elle essaie de sortir de la merde dans la vie. Le gars qui est venu parler par après, c'est la même affaire. Puis le livreur de pizza au Super Bowl, là, c'est la même affaire. Ce gars-là avait les yeux effarés parce que quelques jours après, pour le Super Bowl, nos pizzas ont été livrées par quelqu'un qui ne comprenait pas le français et parlait quelques mots d'anglais. Et le gars, il avait les yeux dans le vide, effarés comme un chevreuil devant des phares. Il se démerdait, il était visiblement en mode survie. C'était un humain, lui, ici, tu sais. C'était un humain. À un moment donné, il faut revenir aussi à ça. Moi, il n'y a pas plus francophile, puis comment dire, j'ai voté deux fois oui aux deux référendums. Je vais travailler pour le PQ à l'époque, mais quand même, je suis avant un humaniste, avant d'être, un patriote, hein? Alors, c'est ça le problème qu'on a. Maintenant, il faut que les lois sur le français soit de plus en plus, toujours plus difficile, en ce sens que les gens puissent pas, les immigrants ne puissent pas passer à côté, qu'ils doivent apprendre le français, mais quelque part, si on est en déficit de personnel, c'est toujours pas de leur faute à eux autres, là, hein? Mais Régis... Alors, si on est en déficit de personnel, on a besoin de monde, ce sont les décisions qu'on prend collectivement, hein?
Régis, tu poses la question générationnelle face à ce réflexe-là de s'attendre à ce qu'on soit servi en français partout au Québec, puis tu dis, écoute, l'idée, c'est pas de lâcher prise, mais est-ce qu'on procède encore, ma génération et moi, et puis tu te décris comme un boomer, de la bonne manière. Penses-tu que les jeunes générations sont beaucoup moins, disons, sensibles à la question du français que ta génération, la mienne, pouvait l'être?
Il y a aucun doute là-dessus. C'est pas qu'ils sont moins sensibles, c'est qu'ils sont plus universalistes. Pour eux, le monde s'est élargi. Le monde, quand j'avais 18, 21, 23 ans, il était quand même assez restreint, ce qui n'est pas leur cas. Ils ont accès à tout facilement. Bon, c'est inutile de revenir sur Internet. Mais les jeunes sont pas dans le même moule. Ils pensent pas comme nous autres. Nous autres, on est quelque part souvent des radoteux, parce qu'on a vécu les deux référendums, on a adoré l'évêque, on a aimé Bouchard, on a trippé sur Parizeau, mais les autres, ils sont pas là. Ils sont ailleurs. Ils pensent autrement. Le problème, c'est que c'est encore nous autres qui sommes au pouvoir. De moins en moins, quand je regarde à l'Assemblée nationale, ça commence à rajeunir, mais pas tant que ça. Tu sais, monsieur, puis quand je vois les partis politiques, hein, qui se battent pour aller chercher des comtés régionaux en faisant, entre nous, du au minimum de la xénophobie puis quelque part du racisme, je me dis, et tabarouette. Puis là où sont les jeunes, où les jeunes sont plus concentrés, c'est-à-dire dans les milieux urbains, ils ne votent pas pour la CAQ, généralement. Ils ne votent pas pour des gens qui ont cet état d'esprit-là. Alors la jeunesse, oui, elle pense autrement. Par exemple, elle va voter Québec solidaire, par exemple, on verra aux prochaines élections. Mais cette espèce de combat de coq-là pour aller chercher des franco-régionaux, les jeunes sont pas là. Ils sont pas là. En tout cas, les jeunes urbains sont pas là et ils sont à majorité.
Toujours un plaisir de t'entendre parler de croquettes ou autre chose. Merci beaucoup, Régis.
OK, salut.
Salut, à la prochaine. Régis Labeaume, ex-maire de Québec, est désormais agent libre du commentaire et on peut lire ses chroniques dans la presse.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Sommes-nous prêts pour une nouvelle culture politique? C'est le titre d'un texte qui est publié dans la presse aujourd'hui sous la plume de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. On sait que les temps sont durs pour les élus au municipal. Il y a 800 élus qui ont choisi de démissionner au Québec depuis le dernier scrutin. Pour plein de raisons, là, c'est un buffet de raisons. La tâche est difficile. Les citoyens mécontents peuvent être, disons, assez violents parfois dans leurs propos, même dans leurs gestes et dans leurs menaces. Donc, il y a des véritables questions à se poser sur le bien-être de nos élus municipaux, mais la mairesse Fournier, qui prend acte de tous ces irritants, là, invite quand même aussi les acteurs du monde politique municipal à changer leurs pratiques. Elle est en studio. Madame la mairesse, bonjour.
Bonjour.
OK, vous dites que dès la campagne électorale qui vous a porté au pouvoir, vous avez voulu imposer une approche résolument positive. Ça voulait dire quoi, selon vous, positif?
Ça veut dire de se concentrer sur ce qu'on a à offrir. Parce qu'en fait, moi, je suis fondamentalement convaincue que c'est ça, la politique, c'est de proposer une vision qui va être mobilisante, qui va être emballante pour la population. Et ensuite, c'est aux citoyennes et aux citoyens de décider ouais. de leur choix de représentantes et de représentants. Mais j'avais pas envie de consacrer du temps de ma campagne à commenter les propositions des autres, à les critiquer, à tenter de les rabaisser, parce que malheureusement, c'est ce qu'on voit beaucoup trop souvent en politique. Puis je vais vous dire, c'est que de par mon expérience à l'Assemblée nationale du Québec, où j'ai siégé durant 5 ans, dont plus la moitié de mon mandat dans une formation politique, c'est fou le temps qui est perdu à tenter de caractériser l'adversaire, pour ne pas utiliser le mot diaboliser, parce que c'est, ouais. c'est souvent ça, alors qu'on pourrait investir ce temps-là sur des choses tellement plus constructive, des propositions à présenter à la population. Je veux dire, il en manque pas le défi, donc il manquerait pas non plus. On aurait besoin de jus de cerveau qui soit bien placé, bien avisé. Puis d'ailleurs, lors de la deuxième moitié de mon mandat à l'Assemblée nationale, j'ai pu me concentrer là-dessus en étant députée indépendante, puis j'ai réussi à faire valoir différentes propositions que je n'aurais probablement jamais eu le temps de développer si mon temps avait dû être investi dans une attaque constante envers le gouvernement. Puis je précise que c'est important, évidemment, d'avoir des critiques qui soient constructives, mais il y a beaucoup trop de temps qui est passé à tenter de se remonter aux dépens des autres.
Donc, là, vous avez un parti au municipal et dans votre texte à la presse, vous dites, dès la campagne électorale, on s'est dit, pas de critique, pas d'attaque. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre que vous donnez aux membres de votre parti, aux élus de votre parti? On n'attaque pas les adversaires, puis quand on les critique, là, on s'en prend pas aux personnes. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Y a-t-il une note de service interne?
Tout à fait. Quand j'ai constitué ma formation politique et que j'ai rassemblé mon équipe, pour moi, c'était clair. C'est des valeurs que je leur ai exposées. C'est des rappels que je fais constamment à mon caucus. D'ailleurs, tantôt, j'ai eu une rencontre avec les élus de mon équipe, puis on se refaisait le message. Puis c'est pas facile de pratiquer, disons, cette façon-là de faire la politique au quotidien parce que c'est un moule, tu sais, qui nous entraîne. Puis moi, je blâme personne personnellement d'embarquer dans ce système-là. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais membre d'une formation politique à l'Assemblée nationale parce qu'on nous dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on est encouragé à tomber dans les attaques plus partisanes. Puis même, on reçoit des félicitations pour ça. C'est fou comment ça fait dévier, à mon avis, le débat de la noblesse de ce que devrait être la politique à son fondement même. Puis donc, il faut rester au-dessus de la mêlée. C'est plus difficile. Ça demande beaucoup de contrôle de soi aussi, de se dire, écoute, on va lâcher prise là-dessus. Oui. On va se concentrer sur le positif. Mais je pense que ce sont les attentes de la population à notre égard. Puis c'est quelque chose qui est vraiment salué par les citoyennes et les citoyens. Moi, je pense qu'on a la responsabilité d'élever le débat en ce sens-là.
Catherine Fournier, je lisais votre texte et je trouve que c'est une bonne approche. Moi, je pense que quand les politiciens se traitent de tous les noms, quand ils s'attaquent, quand ils mettent l'intégrité des adversaires en doute, je suis pas sûr que ça sert la cause de la politique en général. Mais dans votre cas, votre parti est majoritaire à l'Hôtel de Ville à Longueuil. Si vous ne l'étiez pas, peut-être que vous seriez plus, disons, porté à des sautes d'humeur aussi.
On a une situation qui est évidemment assez exceptionnelle à Longueuil. C'est un appui très, très fort qu'on a reçu de la population aux élections de 2021. Par contre, à Longueuil, la particularité en comparaison à d'autres villes à travers le Québec, c'est qu'on est la ville-centre d'une agglomération. Donc nous, on a un conseil d'agglomération avec d'autres élus de d'autres municipalités et plus de 50 % de notre budget va à l'agglomération et des responsabilités. C'est un peu comme un autre palier de gouvernement. Et au sein du conseil d'agglomération, Longueuil est minoritaire parce que ça prend le 2/3 des voix et Longueuil est un peu plus de 50 % autour de la table. Donc c'est un constant gouvernement minoritaire et pour la première fois en 20 ans d'existence à l'agglomération, on a un conseil qui fonctionne bien parce que tout le monde y met du sien, puis ça relève pas juste de moi, là. Il y a d'autres maires et mairesses autour de la table qui ont envie aussi que ça fonctionne, qui sont dans une approche de collaboration. Donc, à l'agglomération, même si on est minoritaire, on réussit à faire la démonstration que c'est possible. Ça demande beaucoup de temps, par contre. Moi, les investissements en termes de diplomatie, d'écoute, d'ouverture, évidemment, c'est énergivore parfois, mais à mon sens, c'est ça qui donne les résultats les plus porteurs.
Fait que même au conseil d'agglomération, vous avez jamais, disons, eu une saute d'humeur, vous avez jamais été tenté de donner un coup de gueule, disons, à un adversaire.
Je suis parfois agacée de certains commentaires, je vais sans dire, mais je pense qu'il y a des façons de bien dire les choses dans le respect, puis d'avoir des conversations aussi en privé, là, toujours évidemment dans l'ouverture, mais pour moi, les choses se règlent pas devant la caméra.
OK, on le sait, là, il y a des élus qui s'en vont pour plein de raisons. Il y a une de ces raisons, c'est, disons, la dureté du discours des citoyens, que ce soit sur les réseaux sociaux, parfois même en personne, qui se plaignent de services municipaux de façon très, très directe aux élus, parfois. Qu'est-ce qui a changé dans le fond de l'air, vous pensez, ces dernières années, pour qu'il y ait autant de violence verbale?
Bien, d'abord, on en revient à l'exemple des élus. Si nous-mêmes, on légitimise ce genre de discours-là, ben c'est sûr que ça ouvre la porte à ce qu'on entende des discours qui peuvent être similaires chez certains. c'est-à-dire la minorité là, des citoyennes et des citoyens, parce que c'est important de le rappeler, puis je l'ai dit dans mon texte aussi, là, moi, honnêtement, on reçoit beaucoup de reconnaissance aussi dans le cadre de notre travail, un travail que j'adore, soit dit en passant, puis je me sens bien privilégiée. Mais oui, c'est difficile, mais je pense que c'est les porte-voix qui sont plus nombreux aussi avec les réseaux sociaux. On n'échappe pas non plus à une polarisation qu'on constate au Québec, qu'on constate partout ailleurs à travers le monde, puis c'est sûr que ça a des répercussions.
S'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pensez-vous que vous auriez besoin de protection policière?
C'est une bonne question.
Parce qu'on a l'impression des fois que le discours très dur dans le virtuel, dans ce qu'on appelait le virtuel avant, s'est transposé dans le réel.
Oui, c'est vrai. En même temps, des menaces à l'égard des élus, il y en a toujours eu dans le passé. Puis je vais vous dire, moi, la plus grande menace que j'ai reçue dans les derniers mois, c'était une menace par écrit. Là. C'était une lettre qu'on a reçue à l'hôtel de ville.
C'était pas un commentaire sur Facebook?
Non, c'était pas un commentaire sur Facebook. Puis je veux dire, les commentaires, moi, j'ai pas le temps de tous les voir passer non plus. Je sais que la police fait une certaine surveillance pour les élus en général. Puis je connais pas toute la procédure du service de police de Longueuil dans mon cas. Ils ont fait une analyse de sécurité. Ils sentaient qu'on pouvait rehausser la protection autour de moi, puis moi je leur fais confiance. Je sais pas si c'est directement corrélé avec les réseaux sociaux, bien honnêtement, mais c'est sûr que ça devient plus difficile à vivre parce qu'on est confronté à ça au quotidien. Moi personnellement, je regarde pas trop ce qui se dit, ou en tout cas je regarde, mais je suis avec le temps, j'ai vraiment réussi à faire la part des choses, mais c'est dur pour les entourages. Oui. Je sais que par exemple, clairement mes parents ont une moins forte carapace que moi, puis c'est bien correct, puis je veux dire, je suis sensible à ça.
Toujours le cas pour les parents. Est-ce que vous pensez que il y a rien qui justifie les menaces, la violence verbale,
non, et
etc.
on doit les dénoncer.
Évidemment, et vous l'avez fait. Mais est-ce que les citoyens qui se sentent, disons, ignorés par l'appareil bureaucratique, par ces grandes entités qui sont des gouvernements, des municipalités, pensez-vous qu'ils ont raison quelque part? Pensez-vous qu'on pourrait mieux traiter leurs doléances, leurs critiques, leurs demandes?
Tout à fait. Je pense que justement, on s'adresse pas assez souvent à l'intelligence des gens qu'on... Je veux dire, on fait pas assez preuve de transparence en général dans nos communications. Plus je parle des administrations publiques de façon très générale. On rend pas l'information accessible. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Puis, je veux dire, des citoyens qui se sentent exclus. Encore une fois, il y en a au Québec, il y en a partout. Puis ça participe aussi à la polarisation sociale. Donc, je pense que faut y avoir une sensibilité là-dessus. Là. Je sais qu'il y a plein de têtes intelligentes qui réfléchissent à ces questions-là à travers le monde, de comment faire en sorte que justement il n'y ait pas d'une radicalisation ou un extrémisme qui s'exprime à travers ça. On l'a vu dans les dernières années avec la pandémie, puis on avait eu l'occasion d'en parler souvent à votre micro. C'est préoccupant. C'est préoccupant pour l'état de la démocratie. Puis évidemment, des sorties comme celle de France Bélisle lors de sa démission jeudi dernier ont le mérite de faire cheminer la réflexion, puis qu'on puisse en parler publiquement. Je crois que ça nous aide à cheminer aussi en tant que société.
En terminant, je ne vous laisse pas partir sans qu'on parle des fameux chevreuils de Longueuil. C'en est où, ce dossier-là? Quand est-ce que la Ville va pouvoir agir?
J'ai très hâte que la Ville puisse agir, comme vous pouvez vous en douter. Donc, on a annoncé en décembre dernier là, qu'on pourrait procéder à l'opération lors de la prochaine période de chasse qui est prévue pour l'automne. Parce que pendant les procédures judiciaires, vous savez, moi j'ai annoncé très rapidement après mon élection qu'on allait procéder à la réduction du cheptel. Il y a eu des poursuites judiciaires auxquelles on a été obligés
de répondre,
effectivement, auxquelles on a été obligés de se défendre. On a gagné. On a gagné cette bataille-là devant les tribunaux.
Mais là, il n'y a plus de recours, là.
Il n'y a plus de recours. Il y avait un délai maximal pour faire une requête à la Cour suprême, ce qui n'a pas été fait heureusement, parce que je pense qu'il y a bien assez de fonds publics qui ont été dépensés, beaucoup de temps, et pendant ce temps-là, ben c'est notre joyau du parc Michel Chartrand qui est en train de continuer de se détériorer, sans compter la santé des serres. Mais toujours est-il que là, on met tout en branle pour avoir une opération couronnée de succès cet automne.
Donc, automne 2024, il va y avoir abattage. Merci, Mme Fournier.
Merci à vous.
Toujours un plaisir. Je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée. Merci.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On le sait, il y a de plus en plus de personnes, pas juste au centre-ville de Montréal, on le voit un peu partout au Québec, qui sont, disons, en perdition, on va dire ça comme ça, qui ont des problèmes de consommation, qui n'ont pas de logement et qui se mettent à dériver comme ça dans nos centres-villes. Et ça donne des situations de vivre ensemble qui sont pas faciles parce que quand ces gens-là se désorganisent parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale qui sont amplifiés par la prise de drogue très, très dure, de plus en plus dure, ben, il y a quand même des gens qui habitent au centre-ville. Il y a quand même des gens qui travaillent au centre-ville. Ça rend, disons, les interactions très, très difficiles. Et au centre-ville de Montréal, il y a une OSBL qui s'appelle Un Toit en Ville, qui gère 5 immeubles à logement au centre-ville. Et ce sont des habitations à loyer modique. Et on sait plus quoi faire pour retrouver un sentiment de sécurité dans ce qu'on appelle l'allée du crack. Je reçois Guy Robert, il est président du CA de l'organisme Un Toit en Ville. Monsieur Robert, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. D'abord, c'est quoi un toit en ville?
Un toit en ville, c'est un OSBL qui a été créé en 1986, suite à toute la rencontre qu'il y avait eu sur la question de l'itinérance. Dans notre mission, la mission officielle dans notre déclaration de cette époque-là, c'était pour lutter contre l'itinérance. Aujourd'hui, ça a changé un peu, dans le sens où, à l'époque, l'itinérance, c'était des gens vraiment qui étaient dans la rue. Aujourd'hui, on dit à risque d'itinérance dans la mesure où les gens qui sont chez nous auraient beaucoup de difficultés à trouver un logement à l'extérieur de nos bâtiments.
OK, donc la question des personnes vulnérables, vous connaissez ça à l'organisme Un Toit en Ville.
Oui, parce que en 86, quand on s'est installé, on avait juste deux maisons, sur Visitation et sur Wolfe. On a continué de bâtir dans ce qu'on appelle le village, hein, c'est Visitation puis Sainte-Catherine, oui. Wolfe-Sainte-Catherine. Et donc, on connaissait bien la dynamique qui se passait dans le village. Puis il y avait déjà à l'époque, ça a été connu, et plus vous n'avez entendu parler, tout le monde a entendu parler, de toute la trame puis tout ce qui se faisait là-bas, ça nous a pas empêché nous autres de continuer à bâtir parce qu'on était à l'aise quand même avec cette situation-là. On la comprend, on la vit, on sait que ça fait partie de quelque chose de nécessaire. Puis on était habitué de vivre avec jusqu'à la construction de notre dernier bâtiment qui était sur la rue Berger et Sainte-Catherine.
OK, ça c'est ce qu'on appelle l'allée du crack, qui est tout près des faux-fonds électriques, là, perpendiculaire aux faux-fonds électriques sur Sainte-Catherine. Qu'est-ce qui se passe de particulier aux alentours et dans l'immeuble qui donne sur ce qu'on appelle l'allée du crack?
Parfait. Ben, juste pour cet bâtiment-là, on l'a construit en 2015. Et juste en face, il n'y avait rien. C'était des terrains vagues pas mal tout le tour. Et ça devait être le CLSC qui s'installait là. La raison pour laquelle on l'a bâti, entre autres, c'est parce que nos résidents commençaient à vieillir, puis là, on avait la possibilité de bâtir d'avoir un bâtiment avec un ascenseur, avec une qualité de service beaucoup plus intéressante que ce qu'on a dans nos vieux bâtiments avec beaucoup d'escaliers puis tout ça. Okay. Et on était très heureux d'aller là. Maintenant, on s'est installé, ça a bien été. On s'est installé en 2015 et en 2017 est arrivé Cactus, qui se trouve à être sous les locaux du CLSC.
Cactus, ça, c'est un organisme qui aide les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie à s'injecter de façon sécuritaire avec du matériel, disons, propre. Si on veut résumer comme ça.
Oui.
OK. Donc, ça a attiré plein de personnes qu'on dit vulnérables, qui ont des dépendances. Comment ça a transformé la vie des résidents de cet immeuble-là?
Ça a beaucoup transformé, mais je dois dire qu'au début, on a essayé de travailler beaucoup avec les gens qui étaient là, parce qu'on se disait, parce que la dernière chose qu'on aurait voulu, c'est de dire que ces gens-là n'ont pas le droit de citer, puisque nous-mêmes, on connaît ça, cette question-là du pas d'Amaco. Et on a fait beaucoup de choses pour travailler avec eux, travailler avec la direction qui était là à l'époque. Mais la situation s'est empirée constamment depuis ce temps-là.
Donnez-moi des exemples de ce que les gens qui habitent dans l'allée du crack, dans votre immeuble, doivent vivre au quotidien.
Ben, c'est que on est comme un jet de pierre, c'est la porte en face. Il y a deux seules adresses civiques sur la rue Berger, c'est celle de Cactus et la nôtre, qui est juste l'autre bord d'une petite... C'est une petite rue étroite, mal éclairée, qui débouche pas, c'est une quasi-ruelle. Et donc, les gens, ce qui arrive, c'est que Cactus n'est pas ouvert 24/7. Et donc, à un moment donné, ils arrêtent, eux, de servir leur clientèle qui se ramasse dans la rue. Le fait qu'ils soient là, ça a attiré quand même beaucoup de monde et ça a attiré aussi les gens qui fournissent les usagers.
Donc, les pusheurs.
Oui. Et ça a amené tout un écosystème sur un petit bout de rue. Ce que ça fait, c'est que ils sont constamment dans nos portes. Ils cherchent à forcer. L'hiver, ils cherchent à forcer nos serrures.
Ils s'infiltrent dans l'immeuble.
Dans l'immeuble, oui. On compte plus le nombre de fois qu'on a remplacé les portes, qu'on a remplacé les fenêtres, qu'on a, tu sais. Parce que eux, ils ont besoin d'une place et on comprend ça. Mais ça fait que notre objectif principal à nous, qui était d'offrir un logement sécuritaire, on sait comment aussi que c'est important, le logement, pour tous nous autres, c'est important. Mais quand t'as eu beaucoup de difficultés, quand t'as moins de sous, quand t'as moins de possibilités d'échappatoire, ton logement, ça devient ta place où tu peux te rebâtir. Présentement, c'est plus ça.
Vos locataires, là, présentement, sont des locataires?
Oui.
OK. Vos locataires vivent une sorte d'enfer. Je veux dire, ils vont trouver ces personnes-là qui ont des problèmes de consommation, de santé mentale dans les couloirs. Il y a eu des agressions physiques, des agressions verbales. Vous avez lancé un cri du cœur pour que la ville intervienne. Il y a personne qui intervient. Vous êtes laissé à vous-même, je comprends bien.
On a l'impression un peu des fois qu'on est dans la maison des fous d'Astérix, là, à savoir...
Cactus, en termes de bureaucratie, là.
Oui, parce que Cactus, il dit, ben gars, moi, l'autre bord de la porte, c'est plus mon problème. Puis lui, il ferme à 2 heures, puis les gens qui sont là, c'est nos résidents, bien souvent, qui appellent les ambulances, là, parce qu'ils font des crises en bas, puis que... Et ça fait que Cactus dit... Et c'est dans son mandat, puis je comprends ça. Il dit, nous, là, l'autre côté de la porte, ça nous appartient pas. D'un autre côté, on comprend mal qu'on installe une toilette publique sur la petite rue qui est là pour servir quelle clientèle, si c'est pas celle de Cactus, mais on dit, en même temps, ben c'est pas nous. La ville a un certain rôle à jouer. On a appelé la direction de la santé publique qui dit, ben nous, on fournit des soins, puis on fait la gérance de tout ça. On a envoyé une lettre au ministre Carman. Ben avant de sortir en conférence de presse, là, on a envoyé des lettres à tout ce monde-là. Le ministre Carman, on n'a même pas eu d'accusé de réception pour dire, écoutez, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on vivait, qu'est-ce qui se passe concrètement, puis. Et on a l'impression que c'est la rue, ça appartient à personne. Nous, on vit une situation quotidienne. Puis quand je dis quotidienne, là, ça veut dire que nos locataires, là, ils ont pas de break, ni jour, ni soir, 7 jours par semaine. Pour eux autres, il y a pas de vacances, là, il y a pas de Noël. Noël, ça roule, c'est pareil comme les autres jours. Ça fait des gens qui vivent depuis 7 ans, leur morale et le sentiment d'inquiétude est terrible. Le moral est à terre parce que c'est 7 ans où tu dors pas. Il y a des ambulances tous les soirs. Tous les soirs, là, il y a des ambulances.
Les clients
là.
De Cactus qui sonnent aux portes en espérant que quelqu'un va leur ouvrir.
Oui, puis ça fait que puis le sentiment de sécurité, mais il est plus, l'angoisse est au maximum. Le sentiment de sécurité n'est plus là du tout parce que les femmes vont se téléphoner pour descendre aller porter les poubelles en bas parce qu'ils savent jamais, mais qu'ils sortent de l'ascenseur, qui va avoir là? Puis vous savez que la nouvelle drogue, en plus, fait que les gens ont un comportement complètement erratique. Comme je vous dis, on était là en 86, la drogue, on connaît ça un peu.
C'est pas
là.
La même chose.
Mais aujourd'hui, la personne qui est en face de toi, quand elle te regarde, t'es pas sûr de ce qu'elle voit, puis t'es pas sûr de comment elle va réagir, et c'est épeurant, même pour quelqu'un qui connaît ça.
Guy Robert, en terminant, vous avez fait une sortie vous avez fait des sorties au fil des semaines, des mois, qui étaient mesurées. Vous êtes pas en train de dire nettoyer le quartier, puis c'est de la racaille. Vous êtes pas dans ce discours-là. J'ai trouvé que vos propos étaient assez mesurés. Ça a pas empêché Jean-François Marie, qui est le directeur général de Cactus, de dire que vous êtes des gens qui relevez du pas dans ma cour, et ça montre la stigmatisation dont est victime cette clientèle, les gens qui ont des dépendances. Personne ne veut les avoir à proximité. Il a aussi dit, c'est un abandon, vos récriminations, de la tentative de vivre ensemble. Comment vous avez réagi à ces propos-là?
Ah, mon Dieu, que ça, on a trouvé ça très plus que difficile. C'est comme si on était en train de faire une espèce de gradation de la misère, là, une espèce de palmarès. Tu sais, avant, quand t'avais pas de logement, t'étais dans la misère. Après ça, ben, si tu te ramasses à faire du camping sur la rue Notre-Dame, là, t'es dans la misère. Puis là, tout d'un coup sec, c'est celui qui est dans la misère, c'est celui qui est toxicomane, qui a pas de logement puis qui vit dans la rue. Et ce qu'on entend, ce qu'on reçoit, c'est ben là, nous, on sauve des vies, puis si vous autres, là, vous êtes pas dans la misère, on est quasiment des petits bourgeois qui ont un logement, fait que, tu sais, t'as un beau logement neuf, fait que c'est quoi ton problème?
Donc, tu devrais accepter que des gens viennent faire leurs besoins, leur numéro 2 dans ton couloir.
Oui, puis accepter de pas être capable de sortir, accepter de, que la livraison de la pharmacie puisse pas rentrer parce que le gars il dit je rentre pas là. Accepter que t'es dans la peur tout le temps, que tu rouvres ta porte, tu sors dans le corridor, t'es pas sûr qui tu vas rencontrer. Accepter toute la situation qui la rue qui est épouvantable. T'sais, les gens là, t'sais, pour les quelques-uns qui que leur famille venait, ils veulent plus y aller là. D'abord ils ont honte, puis d'autre part ils ont peur. Et c'est comme si, d'un coup sec, on devait tout accepter ça, là, parce que nous autres, on n'est pas dans le top de la misère. Ce qu'on demande, finalement, là, c'est que cette organisation-là doit exister. C'est sûr que ces gens-là doivent être aidés. On veut juste que ça soit fait correctement. Ils devraient avoir les services nécessaires. Ils ne devraient pas, à partir de 2 heures, transférer ça à des locataires à l'autre bord qui n'ont pas les moyens pour dire, ben garde, nous, on est fermés, arrangez-vous avec ça. On demande qu'ils aient les vrais moyens pour faire leur job, puis qu'ils soient, puis qu'à ce moment-là, qu'ils commencent à collaborer plutôt que de faire à semblant que ça n'existe pas. Il est là le problème, il est vrai le problème. On ne l'invente pas. Faut travailler dessus maintenant.
Monsieur Robert, merci. On va suivre le dossier, puis je sympathise avec vous. Je comprends à quel point vous êtes exaspéré. Puis l'idée, c'est pas de stigmatiser ces gens-là, c'est de s'assurer qu'ils soient encadrés, puis qu'ils soient pas non plus laissés à eux-mêmes, parce que c'est vous qui avez à dealer avec ça. Merci beaucoup. C'était Guy Robert, président du conseil d'administration de l'organisme Un toit en ville.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler de se protéger sur les réseaux sociaux, protéger des éléments de notre vie privée, protéger nos comptes aussi, parce que il y a des gens qui se font littéralement pirater leurs comptes, et après ça, pour retrouver le contrôle de ces comptes-là, Facebook, Instagram, etc., ça peut être la croix et la bannière. On va parler de tout ça avec Julien Test-Arnois, il est fondateur de RéseauLock. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, exercice de transparence totale. Julien Test-Arnois est le fils de notre ami et collaborateur ici à l'émission, le journaliste à la recherche, François Arnois. Bonsoir.
Allô, Patrick.
C'est drôle parce que je t'écoutais parler tantôt pendant la pause et j'ai l'impression d'entendre ton père. Bon, ça, c'est mes bébites à moi. Donc, félicitations pour ce guide-là que tu as lancé. C'est un guide en 6 parties qui s'adresse aux gens qui sont sur les 6 plateformes principales de réseaux sociaux. Fais le résumé de ces plateformes-là.
Ouais, mais en fait, c'est vraiment pour aider le grand public à comprendre les paramètres de sécurité et de confidentialité qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, parce que toutes les plateformes ont des paramètres qui sont disponibles. Mais je constate que les gens, souvent, n'ont pas connaissance qu'ils existent, donc ils ne vont pas les utiliser. Et c'est là que ça amène plusieurs erreurs au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Fait que moi, je me suis dit j'allais faire une série de 6 guides numériques, donc comme tu disais, un pour chaque guide, pour vraiment tout rassembler au même endroit, pour aider les gens à concrètement mettre en place les bonnes pratiques sur leurs réseaux sociaux.
OK, qu'on soit donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Snapchat, X, c'est à peu près toujours les mêmes conseils que tu donnes.
Oui, tout à fait.
OK, conseil numéro 1, qui vaut, disons, de l'or, les gens devraient appliquer pour s'éviter beaucoup de troubles, c'est quoi?
En termes de sécurité, c'est activer le double facteur d'authentification. On en parle beaucoup pour les comptes de banque, pour divers comptes, mais on oublie souvent les réseaux sociaux, alors que c'est la meilleure protection en termes de sécurité. Parce qu'il faut comprendre que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup des attaques opportunistes. Donc, pour faire simple, les fraudeurs ou les pirates vont pas viser un compte en particulier. Ils vont plus essayer de rentrer sur un compte et une fois qu'ils sont rentrés, ben là, ils vont voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ça fait en sorte que tout le monde est un peu une cible potentielle. Donc, niveau sécurité, c'est assurément la meilleure option, activer le double facteur d'authentification sur tous ces comptes.
Explique pour les gens qui seraient des technonouilles, il y en a, et je m'inclus là-dedans parfois, là, c'est quoi la double authentification?
En fait, c'est quand on va demander une validation de son identité après avoir rentré le mot de passe et son identifiant. Donc, les plus courants, ça va être de recevoir un code à 6 chiffres par SMS, ou on peut aussi, ce qui est une meilleure option, c'est d'utiliser une application génératrice de code comme Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Et de là, ben, c'est un peu pour confirmer notre identité. Donc, si, par exemple, un fraudeur réussirait à trouver notre mot de passe, ben, si on a mis en place le double facteur, il sera bloqué et il pourra pas rentrer, somme toute, sur le compte.
Donc, si on n'a pas l'authentification à double facteur, si on découvre le mot de passe, on peut rentrer dans le compte. Et voilà, en prendre le contrôle.
Voilà, c'est souvent le cas typique d'une attaque sur les réseaux sociaux, c'est souvent que le fraudeur a juste réussi à trouver le mot de passe, parce que ben, souvent les gens vont mettre le même mot de passe pour plusieurs comptes, et donc s'il n'y a pas de protection supplémentaire, ben oui, une fois qu'il est rentré avec le mot de passe, il rentre, et de là, ben niveau sécurité, après ça, oui, tu perds ton compte, puis ça peut causer beaucoup de problèmes.
Mais Julien, ça fait des années que les plateformes, même les fournisseurs de services de courriel offrent l'authentification à deux facteurs. Moi, je pensais que tout le monde savait que, ben écoute, c'est une des meilleures façons de se protéger, c'est pas le cas.
Mais en fait, les gens sont au courant, mais c'est comme si pour les réseaux sociaux, c'était ah ben non, ça c'est pas nécessaire. Comme si les gens sous-estimaient l'intérêt des cybercriminels envers les réseaux sociaux. Mais du moment que tu comprends que non, ils sont bien intéressés par les comptes, ben c'est un peu ça. Donc ça va de soi de le mettre. Mais oui, souvent les gens, c'est comme tes réseaux sociaux, c'est le fun. Oui, mais il y a aussi des choses à mettre en place pour se protéger.
OK, puis c'est quoi l'intérêt pour un cyberpirate de voler l'identité numérique, le compte Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn? De quelqu'un comme ça au hasard. C'est quoi son intérêt?
Ben, pour le grand public, ça va surtout être de faire de l'usurpation d'identité en ligne, donc de juste se faire passer pour la personne puis utiliser le lien de confiance qu'elle a avec ses proches ou les gens qui sont abonnés ou qui sont amis pour justement ben, commettre d'autres fraudes. Donc, par exemple, t'es de demander de l'argent ou t'es de juste envoyer du spam à tout le réseau. C'est sûr que LinkedIn, ben, comme c'est un réseau professionnel, là, l'usurpation d'identité devient de plus en plus intéressante pour des fraudeurs. Mais sinon, c'est vraiment juste de, oui, prendre le contrôle du compte puis commettre des actions qui ne respectent pas les règles des plateformes d'utilisation. Mais comme ça, ben, comme c'est le compte d'une personne et non le leur, ben, ils risquent rien. Ou sinon, ben, il y a aussi évidemment d'utiliser le compte personnel pour aller attaquer les entreprises. Parce qu'on sait que souvent les entreprises, ils gèrent les réseaux sociaux avec des comptes personnels.
Oui.
Donc, si un fraudeur réalise que le compte personnel est utilisé pour gérer une page d'entreprise, ben, tout de suite, il va aller attaquer la page d'entreprise et les ressources. Donc, si tu as des comptes publicitaires, ben, ça peut amener beaucoup plus loin, comme on le voit dans certains articles.
OK. C'est quoi ton point de vue sur la diffusion de photos, que ce soit de nos photos, des photos des membres de notre famille, de nos enfants? Est-ce que c'est dangereux?
Ben, en fait, je pense que c'est correct de le faire si on le fait de la bonne manière. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup, justement, ça c'est une des grandes erreurs, c'est que les gens partagent tout de manière publique sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que quand on partage quelque chose de manière publique, c'est accessible à la planète à travers le monde. Peu importe t'es où dans le monde, si tu mets sur Facebook une photo avec le mode public, tout le monde peut le voir. Donc, si tu veux mettre des photos de toi ou bon, des photos de famille ou même des informations, ben, tu peux le faire, mais fais-le de manière contrôler en utilisant les options d'audience qui permettent de choisir à qui tu veux rendre accessible l'information. Et si tu utilises ces paramètres-là, ben, tu peux par exemple publier des photos de toi au chalet, c'est juste tes amis qui vont les voir. Si tu as un compte Instagram, TikTok ou X, tu peux mettre l'option de compte privé. Quand c'est un compte privé, ben, faut faire une demande d'abonnement pour accéder à ton compte. Donc là, tu as un bien meilleur contrôle sur qui a accès à ce que tu mets en ligne. Donc ça, oui, c'est possible de mettre en ligne des informations ou des photos, mais il faut le faire de la bonne manière. Et ça, ben, ça passe par ne pas le faire de manière public sur les réseaux sociaux.
Est-ce que les plateformes répondent bien quand on se déclare victime d'un vol de compte?
Oui, non, c'est sûr que pour le grand public, c'est très compliqué. Il faut comprendre que quand tu fais pirater ton compte, c'est des formulaires qui sont validés par des robots. C'est pas un humain qui va être en arrière, oui, pour valider si c'est bien toi ou pas. Donc ça, c'est sûr que quand tu perds ton compte, si le fraudeur a le temps de changer ton courriel, ton numéro de téléphone, bonne chance. C'est vrai que ça va être autant
t'as
Facebook.
T'as pas de truc à nous donner pour contacter Facebook directement.
Ben, c'est un peu ça le gros problème, c'est que ben non, il y a pas de numéro de téléphone, de courriel, ça faut toujours s'enlever la tête. Il y a pas de numéro direct pour les particuliers, ça n'existe pas. Là. Quand t'es abonné à Meta Verified, tu peux contacter le support, mais il faut que t'aies accès à ton compte. Fait que ça c'est un peu mal fait, c'est que tu perds ton compte, tu peux pas les contacter. Fait qu'on s'entend que ça sert pas à grand chose. Fait que non, honnêtement, il y a pas de. Oui, il y a un service à la clientèle, mais c'est souvent ça passe par des formulaires. Souvent dans mon guide, il y a une section comme quoi faire si son compte a été piraté. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'on est un peu dépendant des plateformes elles-mêmes qui, oui, si elles veulent t'aider, elles vont t'aider. Mais bien souvent, l'aide est très difficile à avoir. Là.
Julien Test-Arnois, je rappelle que tu es fondateur de Réseauloc. Et là, tu as publié sur ton site Réseauloc là, une série de 6 guides pour se protéger. Est-ce que c'est un mythe qu'il y a des voleurs qui essaient de trouver des informations sur les déplacements des gens? Par exemple, des gens qui vont s'en aller en voyage et ils se disent, OK, si je trouve l'adresse de la maison de cette personne-là, la maison est probablement vide, je vais aller la vider.
Alors non, c'est bien réel. En effet, vous comprendre autant sur Facebook que sur Instagram, si tu publies des photos de vacances, ben, par exemple sur Facebook, tu as l'option à propos, tu peux mettre la ville où tu habites. Si quelqu'un a mis son nom, prénom, nom de famille exact, la ville où il habite de manière publique, puis il met des photos par exemple devant sa maison où tu peux voir le numéro civique, ce que je vois très souvent, ben, un fraudeur avec les pages jaunes, il trouve l'adresse en quelques secondes. Et de là, ben, s'il surveille les réseaux sociaux et que la personne est découverte de manière publique au lieu de sais, choisir l'audience qui est partie en vacances, ben oui, aller voler quelqu'un, ça devient un peu un jeu d'enfant. Donc non, c'est pas un mythe, ça arrive pour vrai.
OK, est-ce que tu conseilles aux gens de se prendre des pseudonymes, de pas mettre leur vrai nom sur leur compte?
Alors ça, c'est aussi la pire erreur, parce que le problème, c'est que si, mettons, tu te fais prêter ton compte ou qu'il y a un problème, pour valider ton identité, toutes les plateformes demandent une pièce d'identité. Si tu mets un pseudonyme, là, ils vont jamais valider avec la pièce d'identité, fait que là, tu es sûr que tu perds ton compte, fait que non, faut mettre son vrai nom, son vrai prénom, parce que ben, en cas de problème, oui, ils pourront juste pas valider ton identité, donc là, ça veut dire perdre son compte.
Qu'est-ce que tu fais pas, toi, spécialiste de la cybersécurité, sur tes réseaux sociaux en particulier et sur Internet en général?
Sur les réseaux sociaux, mais en fait, moi, tous mes comptes que je peux les mettre privés sont privés. J'ai mon cercle d'amis que je connais, puis ça, c'est réglé. C'est ça que, évidemment, dès qu'on me propose de mettre une information, si c'est pas essentiel, ben, je la mets pas. Par exemple, sur Facebook, on peut mettre la ville où on habite, quelle école secondaire on est allé. Ben, tout ça, ça peut être des questions de sécurité pour d'autres plateformes. Donc, si c'est pas essentiel de mettre l'information, ben, mettez-la pas. Ça sert à rien d'aller la mettre même quand ça te demande de le faire, faites-le pas. Fait que ça, moi, c'est sûr que quand c'est pas nécessaire de le mettre, je le mets pas. Puis, bien évidemment, double facteur, c'est aussi en place sur tous mes comptes. Mais après ça, je vous dirais, j'ai un peu une utilisation, t'es comme tout le monde, je mets des photos, je publie des stories et tout, mais je le fais de manière contrôlée. Donc
aucun public ouvert, aucun profil ouvert à tous les publics.
Non.
Jamais.
Non, fait qu'en fait, si vous rendez sur mes comptes, on peut me trouver, mais vous allez voir le nom, prénom, une photo de profil, puis c'est tout. Alors que si tu vas sur mon compte puis t'es ami, tu vas voir que je publie beaucoup de choses, mais c'est justement réservé à mes amis.
Puis j'imagine que tu n'acceptes pas de demandes de gens que tu ne connais pas.
Exactement. Ça, c'est aussi une erreur qu'il ne faut pas faire.
Très intéressant. Rappelle-nous où on peut trouver ces 6 guides de protection numérique.
Alors, directement sur mon site, donc resolog.com, resolog.com. Il y a la section nos guides et il y aura les 6 guides directement accessibles gratuitement, on le rappelle.
Fascinant. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci à toi.
À la prochaine. C'était Julien Test, Arnois, fondateur de Resolog. On se retrouve demain, tout le monde. Merci d'avoir été.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.